à tous et à toutes, je suis Capucine Bruno et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Un poil d'UX. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir accueillir Mathieu Nedviez, Lead UX Researcher chez BPI France, qui est la banque d'investissement public en France. Le sujet du jour concerne une problématique que toute entreprise peut rencontrer, comment centraliser les retours utilisateurs. On va voir ensemble comment l'UX Factory de BPI France applique leur processus de recherche au sein des équipes produits, face aux évolutions de leurs équipes et de leurs outils digitaux. Bonjour Mathieu.
Bonjour Capucine.
Comment vas-tu?
Bah écoute, très bien, et toi?
Très bien, je te remercie. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter et nous dire un peu plus sur ton parcours et ton poste actuel chez BPI France.
Ouais, pas de souci. Du coup, moi je m'appelle Mathieu Nedviez. J'occupe le poste de lead de recherche utilisateur au sein de UX Factory aujourd'hui chez BPI France. BPI France, c'est quoi? C'est en fait la banque qui aide les entrepreneurs et les entreprises françaises à se développer en leur fournissant du financement et des conseils. Mon parcours m'a conduit à cette opportunité professionnelle, bien que cela, c'était pas trop prévu au départ. À la fin de mes années de lycée, j'avais pour ambition en fait de devenir chef cuisinier, motivé surtout par l'esthétique de la présentation des plats, déjà le design. Cependant, les aléas de la vie ont dicté que je suive en fait les traces de mon père, informaticien de profession chez IBM. J'ai donc combiné mes deux passions, l'informatique et la cuisine. C'est ainsi que j'ai intégré l'École européenne des métiers de l'Internet, donc l'EMI, une école de commerce qui a axé sur le web et qui a été fondée par trois entrepreneurs de renom. Xavier Niel pour Free, Jacques-Antoine Grandjean pour Vente Privée et Marc Simoncini pour Mythique. Au cours de mes trois premières années à l'EMI, j'ai dû faire un choix crucial pour mon avenir en fait professionnel, opter pour le design, le marketing ou le développement. J'ai finalement choisi le design, comme tu t'en doutes, qui me paraissait comme le plus adapté à mes aspirations. J'ai ensuite poursuivi mon parcours académique en suivant un master en entrepreneuriat et expertise digitale, toujours au sein de l'EMI. Par la suite, j'ai eu la chance de travailler chez Meilleur Agent pendant 2 ans, où j'ai exercé les fonctions d'UI et d'UX designer. Cependant, le fait de travailler en fait, sur les mêmes sujets en interne commençait un peu à m'ennuyer. J'ai donc choisi de rejoindre un cabinet de conseil qui s'appelle Verset, où j'ai pu travailler pour plusieurs clients tels que BNP Paribas Real Estate, France Télévisions ou encore BPI France. À l'issue de mes 3 années de mission chez BPI France, Mona Mliki, qui est la Head of Design de BPI France et aussi ma responsable, elle m'a proposé du coup de rejoindre l'entreprise en interne. Après réflexion, j'ai donc accepté et me voici aujourd'hui en tant que lead de la recherche utilisateur chez BPI France.
Très beau parcours. Et donc du coup, en étant lead UX, peux-tu nous en dire davantage sur ce qu'est la recherche utilisateur chez BPI France?
Oui, alors la recherche utilisateur, c'est quand même le point de départ de tout projet de conception UX. Elle va nous renseigner sur les comportements, les objectifs, les motivations et les besoins des utilisateurs. Elle permet également de savoir comment ils naviguent dans le système, de pouvoir relever les problèmes qu'ils peuvent rencontrer et surtout comprendre leurs ressentis lorsqu'ils interagissent avec nos produits. Une recherche approfondie sur les utilisateurs peut aider à garantir une meilleure expérience utilisateur. En tant que responsable de cette recherche chez BPI France, je vais surtout veiller à que cette pratique soit bien mise en place au sein de l'UX Factory. Donc je travaille avec différentes équipes pour recueillir ces commentaires et ces besoins de ces utilisateurs pour pouvoir améliorer les produits et services de BPI France de manière transverse. Pour cela, on utilise une variété de techniques de recherche telles que les entretiens individuels, les ateliers focus group ou encore les tests utilisateurs. La recherche joue donc un rôle essentiel dans la conception des produits et services de BPI France. Elle nous permet de mieux comprendre et d'identifier les points faibles afin d'améliorer nos outils pour fournir vraiment une expérience plus optimale.
Donc, en effet, la recherche joue un rôle vraiment important. Mais comment tu as pu en arriver là aujourd'hui chez BPI France?
Alors, la recherche est quand même un élément crucial au cours de ces dernières années pour les équipes produits chez BPI France, parce qu'aujourd'hui, on compte plus de 100 produits digitaux et plusieurs métiers dessinés, que ce soit côté client ou collaborateur en interne. C'est pourquoi, il y a 5 ans, la direction digitale a créé l'UX Factory, qui est le pôle de l'UX. Et surtout, au cours de ces 3 dernières années, l'UX a connu une croissance exponentielle. On est passé de 3 designers à plus de 30 designers, ce qui est quand même à nécessiter une réadaptation de la méthode et de nos processus. Il est difficile d'améliorer un produit et de répondre aux besoins des utilisateurs lorsqu'on se base uniquement sur des hypothèses ou des expériences, comme tu t'en doutes. Pour maîtriser un peu ce processus de conception, c'est un peu essentiel de notre point de vue utilisateur de travailler avec eux dès la recherche. Donc celle-ci va nous permettre de savoir exactement comment nos utilisateurs se sentent lorsqu'ils vont interagir avec nos produits et si ces derniers, surtout, parviennent à réellement atteindre leur objectif. Donc pour finir, chez BPI France, la recherche, c'est la première étape essentielle dans notre processus. Elle va nous fournir des données cruciales pour la création des produits qui vont être centrés sur l'utilisateur. Mais c'est surtout que sans ces informations, c'est impossible pour nous de commencer à travailler de manière efficace, car elles sont un élément fondamental de tout projet. Donc grâce à cela, on va pouvoir économiser beaucoup de travail, beaucoup de temps, d'argent, de ressources, et on va surtout effectuer moins de corrections par la suite. Si nous commençons par le design et qu'on va effectuer ensuite la recherche UX, on va surtout perdre moins de temps à apporter des modifications à nos conceptions pour répondre à nos besoins utilisateurs.
Tout à fait. Donc maintenant, comme vous êtes une 30aine Comment vous arrivez à maintenir ce processus de recherche, sachant que vous avez un grand nombre de produits?
J'ai envie de te dire qu'on arrive presque à maintenir ça. La phase de discovery, c'est quand même un élément clé, comme j'ai pu te le dire juste avant, de l'UX Factory, et on est un peu inscrit dans une démarche de design thinking. Donc cette phase de discovery, c'est un process pour nous qui va nous permettre vraiment de valider une idée avant de pouvoir la mettre en œuvre. Cette étape nous permet de mieux comprendre si un de nos utilisateurs pour imaginer un produit ou service qui répondra au mieux à leurs attentes. Pour cela, on utilise une variété de méthodes, comme des enquêtes, des entretiens, des tests d'utilisabilité ou encore des focus groups. Mais pour cela, nous devrons quand même établir une relation de confiance avec nos utilisateurs et nos collaborateurs pour pouvoir vraiment utiliser ces différentes méthodes avec eux. On travaille aussi en étroite collaboration avec les équipes produits, qui comprennent des product managers, des product owners, des responsables projets ou encore des experts métiers. Mais aussi, on inclut directement les développeurs, parce que pour nous, c'est important de les intégrer dans cette phase en amont et pas que dans la phase de delivery. Nous avons aussi plusieurs rituels hebdomadaires en interne qui va nous permettre du coup d'améliorer nos processus et nos designs. On a par exemple la design review. On va présenter du coup des travaux en cours à l'équipe afin d'obtenir des feedbacks constructifs pour pouvoir améliorer nos designs. Et aussi, depuis peu, grâce à notre design ops, on a créé une community design. Community design, c'est quoi? On va avoir du coup des intervenants qui vont pouvoir venir et aborder des sujets qui peuvent être liés au design. Et par exemple, lors de notre dernière session, on a pu discuter des thématiques du développement durable et de l'éco-conception. Mais en parallèle, cette communauté va aussi nous aider à rester à jour sur les dernières tendances en matière de design et à améliorer nos pratiques sur différentes thématiques. Pour finir, on a aussi pas mal d'outils en interne qui vont nous permettre de faire cette recherche utilisateur.
Hyper intéressant l'ensemble de ces rituels que vous avez du coup pu mettre en place pour pouvoir échanger et collaborer entre vous. Mais quels outils utilisez-vous?
Avec le Covid, on a quand même dû s'adapter et utiliser de nouveaux outils collaboratifs dus au distanciel, comme pour pas mal d'entreprises. Donc on utilise Maze qui nous permet de faire des questionnaires en Quanti ou en Kali ou pouvoir faire des tests utilisateurs à distance avec nos maquettes sur Figma. On a mis en place aussi Ojar qui va nous permettre d'avoir de la data sur la façon dont les utilisateurs utilisent nos outils. Depuis peu, on a mis en place aussi Metabase qui nous permet de faire tout ce qui est type de questionnaire NPS, donc tout ce qui touche au Net Promoter Score, afin de connaître nos promoteurs, nos passifs et nos détracteurs et de pouvoir en apprendre davantage et de pouvoir les questionner par la suite. Depuis l'année dernière, on a aussi mis en place le framework HERT. Donc c'est un framework qui vient de chez Google et qui permet de calculer le ROI de l'expérience utilisateur sur nos produits digitaux. Donc HERT est défini par 5 lettres, le H pour happiness, le E pour engagement, le A pour adoption, le R pour rétention et le T pour task success. Donc cela nous permet d'avoir des KPI qui vont être centrés sur l'utilisateur et de pouvoir les suivre en amont du projet. Mais il faut toujours garder en tête le OMTB, qui est le One Metric That Better, qui va nous permettre vraiment de se focaliser que sur quelques KPI qui vont nous dire si notre produit ou service fonctionne plutôt bien. Et depuis peu, on a mis en place aussi un circuit de recherche. C'est en fait un déplacement dans toutes les directions et délégations régionales de BPI France. On va pouvoir intervenir le temps d'une journée pour pouvoir discuter de l'expérience utilisateur sous format d'atelier avec nos différents collaborateurs.
En effet, l'ensemble de ces outils vous permettent vraiment d'avoir une recherche utilisateur qui est très complète. Comment vous faites pour les adapter à toute l'équipe?
Ça devient un peu difficile. On commence surtout à avoir du mal à documenter et à tracer nos recherches. On va avoir des sujets d'éparpillement, d'oubli, de perte de temps ou encore d'opacité. Maintenant qu'on est une trentaine, on commence à remarquer qu'on demande souvent les mêmes choses à nos collaborateurs ou à nos clients. Donc ça peut être quand même source de frustration pour eux et ça ne nous permet pas, de notre côté, de pouvoir capitaliser sur nos connaissances. Nous sommes donc actuellement en train de travailler sur un outil pour pouvoir centraliser nos connaissances en matière de recherche utilisateur en créant des documents de référence et des modèles pour chaque type de recherche.
Et comment vous appliquez un processus de recherche cohérent dans les équipes produits?
Chez BPI France, on essaye de mettre en place ce processus de recherche avec un outil, comme je te l'évoquais juste précédemment, mais on a rencontré des difficultés, donc tout ce qui est documentation et pouvoir tracer nos recherches. L'histoire derrière ça, c'est que l'année dernière, on a mené une étude de octobre à décembre dernier sur nos collaborateurs en interne, et au cours de cette étude, on a recueilli de nombreux retours. On a ensuite cherché un outil qui allait pouvoir nous permettre de remonter et pouvoir découper ces retours. Donc on a fait un benchmark et on a testé plusieurs outils pour la recherche utilisateur et tout ce qui est système d'atomic research, en prenant en compte certaines caractéristiques, telles que la centralisation des données de recherche, la collaboration avec les autres membres de l'équipe et la possibilité surtout de suivre l'état des remontées et pouvoir créer des liens entre les projets, tout ce qui va être cross-platform ou cross-projet. Les outils qu'on a pu tester comprennent Dovetail, Airtable, Glinly et puis aussi Gravit.io. Il y en a plein d'autres sur le marché, mais c'est ceux qui nous intéressaient au départ pour leur fonctionnalité. Donc on a imaginé les ranger dans différentes cases, certains outils pouvaient être spécifiques à la recherche utilisateur, d'autres allaient être sous format de tableur et pour finir sous format de wiki et documentation. Le but, c'était vraiment de pouvoir répondre à trois objectifs. Pouvoir industrialiser la discovery, évangéliser la connaissance utilisateur et puis agir sur le delivery. L'investissement dans la recherche UX donne toujours des résultats positifs, quelle que soit l'industrie dans laquelle on va essayer de la mettre en place. Donc c'est important de mettre en place un outil de recherche. Grâce à cet outil, on va surtout pouvoir enregistrer l'expérience dans l'environnement naturel, augmenter nos chances de réussite et surtout découvrir les points faibles de nos clients et collaborateurs. Pour concevoir des produits, on se base souvent sur des faits pour créer facilement des produits qui vont être faciles à utiliser. Avec l'évolution dynamique de ces dernières années des habitudes et des comportements de nos clients, la création d'un produit en s'appuyant uniquement sur l'intuition ou la conception, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est là que va pouvoir intervenir l'outil de recherche.
Ok, super. Tu as parlé de plusieurs outils comme Dovetail, Airtable et Klingly. Tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces produits ?
Oui, complètement. Donc comme je te disais, on a testé différents outils. On a testé Dovetail. Donc Dovetail, c'est vraiment un outil qui va être dédié à la recherche utilisateur, qui va permettre de stocker, d'organiser et pouvoir collaborer autour de ces données de recherche. Il offre plusieurs fonctionnalités, telles que la possibilité de créer des cartes d'affinité pour pouvoir regrouper les informations. Il fait aussi la création de diagrammes de flux de travail pour pouvoir visualiser les interactions des utilisateurs. Il nous met à disposition aussi la création de notes de recherche pour pouvoir documenter nos résultats, avec la possibilité du coup de pouvoir collaborer en équipe. Il peut être aussi intégré, ça c'est intéressant, à divers outils de recherche, tels que User Testing, SurveyMonkey. Et pour finir, surtout, on a la possibilité de créer des projets pour pouvoir s'organiser en termes d'études par rapport aux équipes. Il y a aussi Airtable qu'on a pu tester, on a fait un POC dessus. Donc Airtable, c'est vraiment un outil format tableur. Il peut être utilisé pour stocker et surtout trier des données de recherche utilisateur. L'interface ressemble beaucoup à un Excel, ce qui peut être un avantage pour les membres de l'équipe qui ont déjà travaillé avec cet outil. Mais l'outil permet surtout d'avoir un affichage qui va être personnalisé en termes de données, en créant des vues. Cependant, par rapport du quad Dovetail, Airtable ne possède pas d'intégration avec d'autres outils de recherche. Il y a Klingly, qui est un peu le pionnier là-dedans. C'est un outil qui va être vraiment, lui, dédié à tout ce qui va être Atomic Research. Il est basé sur cette méthode-là, qui a été créée par Daniel Pidcock. Lui-même a créé l'outil Klingly et cette méthode. Donc lui, il va vraiment permettre de tout faire, stocker, organiser et pouvoir collaborer autour de ces données. Il permet aussi de créer des tableaux de bord pour visualiser ces données, de pouvoir réaliser des enquêtes pour recueillir ces données ou encore programmer des rappels pour les tâches à accomplir. L'outil permet également de créer des tableaux de bord. Il permet aussi de faire des enquêtes et le tout en programmant des rappels pour pouvoir accomplir ces tâches. L'avantage de cet outil, c'est surtout de croiser les différentes données pour avoir une vision complète et cohérente de nos retours utilisateurs. C'est tout ce qui va toucher à l'Atomic Research. Et pour finir, on a aussi testé Gravit.io. C'est un peu le nouveau là-dedans. C'est un nouvel outil qui se définit comme le CRM des retours utilisateurs. Il a comme fonctionnalité clé la possibilité de pouvoir centraliser ses retours utilisateurs en un seul et même endroit. Bien que cet outil soit encore en cours de développement et que toutes les fonctionnalités ne soient pas encore implémentées, pour moi, il est quand même assez prometteur. Donc de mon côté, je vais quand même continuer à suivre ces développements de cet outil. De plus, BPI France, en étant une société française, on est en fait confronté à tout ce qui va être sujet de RGPD. Et de fait, la recherche de façon anonyme, c'est quand même assez complexe. À la suite de toutes ces investigations, on a finalement choisi Airtable, car pour nous, c'était vraiment le plus simple à mettre en place avec la méthode d'Atomic Research, qui nous permettait de créer une vue sur mesure pour les différentes équipes. Il nous a aussi permis de créer des formulaires, qui étaient bien nos bases de données de nos différents tableaux, ce qui a facilité quand même l'entrée automatique des retours utilisateurs.
Super intéressant, merci beaucoup. Donc, du coup, comment tu as impliqué tes équipes dans ce nouveau projet ?
On a travaillé ensemble, en tout cas une petite équipe, dans le cadre de ce processus de recherche qui fonctionnait très bien avec Airtable. Cependant, avec le temps, on a réalisé que l'outil était spécifique à notre propre étude et que les autres designers avaient quand même du mal à s'approprier notre format. Et on se pose souvent cette question, pour commencer la recherche, c'est donc important de savoir ce qu'on recherche. Donc on a décidé de revenir en arrière pour comprendre l'état actuel de la recherche utilisateur au sein de toutes les équipes produits de BPI France, pour pouvoir impliquer tous les métiers, que ce soit des UX designers, des product owners, des product managers et aussi des responsables projets. Pour cela, on a commencé par effectuer une étude de marché, pour vraiment comprendre les tendances actuelles du domaine de la recherche utilisateur. On a également examiné les outils et les méthodos qui pouvaient être utilisés par d'autres entreprises sur la manière dont ils allaient recueillir les données de leurs utilisateurs. Ce qui nous a permis, nous, de notre côté, pouvoir identifier les meilleures pratiques à mettre en place.
Ok, et donc, comme tu as décidé de revenir en arrière, qu'as-tu fait finalement ?
J'ai donc créé un pôle de recherche qui est composé de 6 super user researchers, que j'ai nommé la ruche de recherche. Le but de cette démarche est vraiment de tester en ce moment sur une durée restreinte la mise en place de cette démarche pour pouvoir faire émerger les bonnes pratiques, apprécier les avantages vis-à-vis de l'entreprise et surtout estimer le temps d'effort requis pour pouvoir déployer cette méthodologie à toutes les équipes.
Super ça. Puis-tu nous en dire davantage sur le rôle de la ruche de recherche ?
La ruche de recherche est en fait une métaphore qu'on a utilisée dans notre domaine pour pouvoir décrire un environnement de travail collaboratif où les équipes travaillent ensemble pour collecter des données précieuses sur les utilisateurs afin d'améliorer leur expérience en ligne. La ruche de recherche, du coup, tire de son nom de la structure sociale complexe des abeilles qui travaillent ensemble pour maintenir leur ruche en bon état de fonctionnement. De même, les équipes de recherche travaillent ensemble pour collecter des données, les analyser et les utiliser pour améliorer les produits et services numériques de l'entreprise, comme la ruche. Donc la ruche de recherche va mettre en lumière le pouvoir de cette collaboration et d'efforts pour pouvoir atteindre un objectif commun dans le domaine de l'UX et du digital. Elle va pouvoir inspirer les équipes à travailler ensemble pour améliorer l'expérience utilisateur. On a entre nous des phases préférées au sein de la ruche qui sont les suivantes. Dans la ruche de recherche, les équipes travaillent dur pour pouvoir butiner les données les plus précieuses, ou encore la ruche de recherche est le lieu où les équipes bourdonnent d'idées pour améliorer l'expérience utilisateur.
Très sympa comme métaphore, dis donc. Et donc comment cette ruche de recherche est-elle parvenue à répondre à votre besoin ?
Donc pour y parvenir, on a donc organisé des entretiens individuels ou des ateliers de groupe avec les différentes parties prenantes, dont les différents métiers. Le but de ces entretiens et ateliers était de déterminer les cas d'utilisation pour cet outil. Donc essayer d'avoir des archétypes d'utilisateurs qui allaient pouvoir nous servir de base pour l'expérimentation et faire un constat général qui allait nous permettre de nous appuyer sur nos enjeux ou en nous en faire découvrir de nouveaux. Il y a aussi le nombre de cas d'utilisation par importance et par thème, et pour finir, la priorisation des stories, en tant que je souhaite pouvoir faire. De manière globale, ça allait nous permettre d'avoir surtout des task flow pour les actions comme alimenter, rechercher, consulter ou encore partager. On a également effectué des recherches sur les tendances actuelles en matière de conception ou de flux de travail pour nous assurer que notre processus qu'on imaginait était à jour et en phase avec les meilleures pratiques d'aujourd'hui. Faire de la recherche pour de la recherche peut sembler un peu une démarche inception. Mais il y a quand même une idée derrière ça, c'est créer un lieu commun avec un modèle de documentation découpé et traçable jusqu'à la priorisation de nos produits. Donc pour finir, en effectuant une recherche approfondie et en documentant cette recherche, on peut s'assurer que les parties prenantes sont sur la même longueur d'onde et que nous travaillons tous vers le même objectif commun. Comment améliorer l'expérience utilisateur chez BPI France.
Et donc, quelles sont les erreurs courantes à éviter lorsqu'on met en place un outil de recherche utilisateur?
C'est une très bonne question. C'est important quand même d'être conscient des erreurs à éviter. On en a quand même commis quelques-unes qui sont en grande partie les mêmes que celles de la recherche utilisateur, tout simplement. La première erreur qu'on a eue, c'est de ne pas impliquer les utilisateurs dès le début du processus de conception. Les utilisateurs, c'est quand même la clé de réussite de tout produit ou service. Donc si on ne les implique pas dès le début de ce processus, on risque de concevoir un produit qui ne répond pas à leurs besoins. On a aussi mal défini, ou en tout cas mal mis en place, nos objectifs de recherche. C'est surtout important de les définir clairement afin de pouvoir recueillir des données pertinentes. Si on ne le fait pas, on risque de perdre du temps et surtout des ressources et recueillir des données qui ne vont être pas pertinentes. Ce qui est lié à ça, c'est surtout ne pas utiliser les bonnes méthodes de recherche si on n'a pas le bon objectif. Donc, sur papier, il existe de nombreuses méthodes de recherche différentes. C'est surtout important de choisir la manière la plus appropriée pour recueillir les données dont on va avoir besoin. Si on choisit la mauvaise méthode, on risque de recueillir des données qui ne sont pas pertinentes ou manquer des informations importantes. C'est ce que nous avons fait la première fois en cherchant directement un outil. Et pour finir, le fait de ne pas partager les résultats de recherche. On n'a pas partagé le fait qu'on commençait à mutualiser les retours de nos utilisateurs dans un outil. Donc ça a été compliqué d'avoir une adoption globale de nos designers.
Super retour. Donc comment allez-vous maintenant vous organiser pour faire remonter tous vos retours utilisateurs ?
Afin de recueillir les commentaires de nos utilisateurs, on a surtout décidé de mettre en place cet outil de recherche atomique pour pouvoir crédibiliser la recherche utilisateur, centraliser et capitaliser sur nos connaissances, replacer l'utilisateur au centre de cette conception et surtout structurer les pratiques de recherche. Pour nous aider à nous organiser, on a appliqué cette méthode de la recherche atomique qui a été créée par Daniel Pidcock. Cette méthode est simple, elle consiste à diviser la recherche en composants atomiques, comme l'atomic design. Donc on commence tous par une étude, qui est une expérimentation visant à recueillir des données quantitatives ou qualitatives pour répondre à plein de questions ou des hypothèses sur l'utilisation des produits numériques. Donc les méthodes et les outils sont nombreux, tels que les tests utilisateurs, les sondages, l'analyse de données, etc. Dans le cas d'une étude, on va faire plusieurs observations. Les observations, en fait, c'est des faits sur l'expérience de nos utilisateurs sur nos plateformes. Donc elles sont notées dans le cadre d'une expérience quantitative ou qualitative. Les observations deviennent un insight, qui est une douleur, une opportunité pour l'utilisateur résultant d'une ou plusieurs observations dans le contexte de cette étude. Enfin, un ou plusieurs insights va devenir une recommandation qui va être mise en place dans le projet, donc c'est tout ce qui touche aux axes d'amélioration. Pour pouvoir simplifier ce processus, on va mettre à disposition des ressources collaboratives, telles que la templatisation des protocoles, de restitution, etc. En fait, le but de ces ressources, ça va surtout nous permettre de définir et de documenter la manière de travailler ensemble pour pouvoir recueillir et restituer nos résultats. Le but, c'est surtout de faire face aux évolutions et limites en fait, d'un outil dans un écosystème tel que BPI France. comment on va pouvoir utiliser un template de bord existant, comment on va pouvoir taguer la donnée, comment l'outil s'intègre en fait dans notre écosystème de recherche. Si je peux te donner un exemple, par exemple, pour la création d'une nouvelle étude, bah, on va mettre en place un support avec les templates de cadrage d'une étude, comment on cadre une étude, comment on travaille avec les parties prenantes, tout ce qui va être au niveau des recrutements des citateurs, avoir un tableau, comment on va pouvoir recruter les mails qui sont mis à disposition, les protocoles, bah, avoir accès aux anciens protocoles des autres designers et tout ce qui va être bah, format de restitution.
Super intéressant de mettre à disposition bah, tous ces documents pour les designers. Et quels sont tes enjeux qui sont liés à BPI France ?
Bah, derrière tout ça, comme tu t'en doutes, il y a quand même des enjeux avec cette méthode. Crédibiliser la recherche utilisateur, avoir une valeur qui est délivrée et perçue avec cette approche scientifique. Le fait aussi de pouvoir centraliser et capitaliser sur la connaissance. Notre but est d'accéder rapidement à l'information via une seule source, d'éviter cette perte de connaissances qui est difficilement trouvable comme on a pu le vivre précédemment. Replacer l'utilisateur au centre de la conception des insights qui vont être contextualisés, structurés et surtout difficilement contestables de la part du métier. Avoir un accès et une intégration rapide dans les user stories au sein de Jira. Et pour finir, structurer les pratiques de recherche. Éviter d'avoir des informations qui vont être inexploitables et pouvoir améliorer la collaboration entre nos PO, PM et UX designers.
Et donc pour conclure, quelle est ta vision pour la suite de la méthodologie que tu es en train de mettre en place ?
Bah, de mon côté, je vais essayer de penser cet outil comme un produit à part entière en se fixant nos propres OKR et Product Principles. C'est important que ça devienne un réflexe pour les différents métiers avec une intégration aussi fluide que celle de Figma côté design. De garder aussi une cohérence avec des rituels et créer un guild pour l'Atomic Research en mettant en place un channel Slack pour obtenir une communauté avec tous les UX au sein de chez BPI France pour que tout le monde soit autonome et puisse répondre aux autres sur la méthode et l'outil. De l'autre côté, l'objectif pour l'UX Factory, c'est surtout de savoir où chercher, parce que c'est un seul unique endroit qui est ouvert à tous. Ça nous permet de gagner en productivité en mutualisant nos efforts de recherche et surtout éviter de recommencer une étude. On revient au début de notre histoire. En ce moment, on est dans une période de construction, mais j'espère pouvoir te raconter cette histoire en mode succès, peut-être dans un prochain épisode.
Un grand merci, monsieur, pour toutes ces réponses. Et avant de se quitter, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager ?
Une anecdote ? Bah, si on reste dans la discussion, pendant qu'on a fait du coup les entretiens avec les différents métiers, on a encore quand même ces retours en termes de verbatim sur qu'est-ce qu'est l'UX. On peut avoir des retours de bah, « vous êtes owner des maquettes et des parcours, vous êtes encore des web designers ». Et c'est là où, en prenant du recul, il y a quelques mois, on a créé en fait un jeu de société qui s'appelle le Supernovux en interne, qui nous permet vraiment d'acculturer nos méthodes et notre métier auprès des différents métiers chez BPI France. Et en ayant eu ces retours, je me dis vraiment qu'il y a quelque chose à faire sur notre métier. Et donc, ce serait ça un peu mon anecdote, et c'est d'acculturer l'UX au sein de BPI France.
Merci beaucoup, Mathieu. Nous arrivons du coup à la fin de ce podcast. Un très grand merci à toi d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé tous ces retours et tous ces conseils.
Bah, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui.
Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez retrouver une multitude d'articles UX UI sur le site de lagrandeours.design. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode.